Excellent réveil à tous. Voici le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La vie politique française à nouveau bousculée par les résultats de l'élection européenne. Le Rassemblement national arrive en tête hier, devançant La République en marche. Après la mise en échec de la gauche du gouvernement en 2017, c'est la droite traditionnelle qui hier a été balayée. 8,48% des voix pour la liste emmenée par François-Xavier Bellamy. Le score est historiquement bas. La stratégie de Laurent Wauquiez semble dans l'impasse.
Au niveau européen, les forces eurosceptiques progressent, notamment en Italie, en Hongrie et en Pologne. Les Verts, de leur côté, réalisent de très bons scores, notamment chez les jeunes, tandis que les groupes de droite, le PPE et de sociaux-démocrates, restent, malgré leurs difficultés, les deux plus grandes forces du Parlement.
Nous analyserons les nouveaux rapports de force pour les 5 ans à venir avec Annabelle Grelier. Et puis, pays par pays, nous verrons ce que ces élections vont changer. En Grèce, dès hier soir, le Premier ministre Alexis Tsipras, en grande difficulté face à la droite, a annoncé des élections anticipées pour le mois de juin. Tour d'horizon avec Marie-Pierre Véraud, correspondance d'Antoine Gignot. À Londres, à 7h15, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, je vous l'ai dit, Benoît, on va être très européen pour ces matins. Et donc, on va parler, par exemple, des résultats en Autriche européenne. Comment interpréter les résultats après l'Ibiza-Gate? Vous savez, c'est comme ça que l'on appelle cet épisode en Autriche, où on a vu l'extrême droite prise au piège. On en parlera avec un correspondant autrichien à Paris pour le quotidien Courrier, Dany Leder.
À tout à l'heure. Le Rassemblement national est arrivé en tête hier soir de l'élection européenne en France avec 23,31% des suffrages exprimés d'après des chiffres réactualisés publiés il y a quelques minutes par le ministère de l'Intérieur. Moins d'un point derrière. À 22,41% des suffrages, La République En Marche, alliée au Modem, est loin d'être en déroute mais n'atteint pas l'objectif qu'avait lui-même fixé le chef de l'État Emmanuel Macron. L'affrontement dans les urnes entre Européens et Eurosceptiques a donc bien eu lieu et il va continuer manifestement à modifier la structuration de la vie politique française. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Du service politique de France Culture. Arrivé troisième hier, la liste Europe Écologie des Verts réalise un bon score avec 13,47% des voix, loin devant les Républicains qui s'effondrent à 8,48%, ce qui devrait leur donner 8 sièges seulement d'eurodéputés dans la prochaine législature. Stéphane, la gauche continue à ramer et c'est au tour de la droite traditionnelle de s'effondrer.
Oui, c'est un résultat catastrophique pour la droite et pour les Républicains. Il se disait depuis des semaines que le candidat choisi par Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy, faisait une bonne campagne, qu'il y avait du monde dans les réunions publiques qu'il animait et qu'il redonnait espoir au peuple de droite. Finalement, il n'en est rien. 8,5%, c'est un très mauvais résultat qui s'explique en partie par le fait qu'un vote utile s'est exprimé. Un vote d'un côté contre Emmanuel Macron, contre le pouvoir en place, et d'un autre côté, un vote en sa faveur pour empêcher le Rassemblement national d'arriver en tête. Et les Républicains, du coup, se sont retrouvés siphonnés des deux côtés. Emmanuel Macron et La République En Marche ont réussi à capter le vote de la droite centriste. Et d'un autre côté, Marine Le Pen a réussi, elle, à capter le vote de la droite dure, plutôt anti-immigration, à laquelle essaie de s'adresser Laurent Wauquiez. Du coup, c'est toute la stratégie de l'actuel président de Les Républicains qui se retrouve remise en cause.
Alors, quel avenir pour Laurent Wauquiez? Écoutez la réaction hier soir du député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Éric Diard.
C'est un score très décevant pour Les Républicains. Il faut que maintenant nous puissions nous remettre en question, nous puissions rassembler la droite et le centre et ne pas simplement se recroqueviller sur une partie conservatrice, retrouver l'UMP qui rassemblait, j'allais dire, de Charles Pasqua à Jean-Louis Borloo et Nathalie Costromorizet. Je pense que Laurent Wauquiez doit tirer les conséquences de ce résultat. On aura un débat avec lui, c'est un homme intelligent, mais Les Républicains à 8,5%, comme je le dis, Nicolas Sarkozy, aux Européennes de 1999, on avait fait 12,8%. Ce résultat a été un échec, il avait démissionné. Aujourd'hui, nous sommes à 8,5%. Nous devons être l'union de la droite et du centre, on doit tout remettre en question. La stratégie n'était pas la bonne. Ne faisons pas une droite moderne. Le parti va s'effondrer. Et donc, je pense qu'il est temps d'arrêter les dégâts.
Éric Diard, hier soir, Gérard Larcher, le président du Sénat, ne se cachait pas derrière son petit doigt et parlait d'un échec pour les Républicains. Démission ou non de Laurent Wauquiez, sa stratégie très à droite, quoi qu'il en soit, on l'a entendu, n'est sans doute plus tenable. On va y revenir. À gauche, on est désormais bien habitué aux claques électorales depuis quelques années, au point pour le PS de voir le score de la liste emmenée par Raphaël Glucksmann, soit 6,19%, comme un relatif bon score. Reportage hier soir lors de la soirée électorale du PS à la Bellevilloise de Steven Gouaillet.
Le mot de remontada est décidément très à la mode. Il y a quelques années, aucun socialiste n'aurait sans doute imaginé l'utiliser au moment où le chiffre de 6,7% apparaît à l'écran. Pourtant, la centaine de personnes regroupées autour de la tribune exultent à 20h et parmi eux, Pierre Larouturou, cinquième candidat de la liste et futur député européen.
On nous avait dit qu'on allait se planter et nous on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par nos idées et c'est la preuve qu'on commence à remonter effectivement.
Il faut bien dire que jusqu'à l'apparition des résultats, un certain doute planait dans les esprits. Dépassera pas la barre fatidique des 5%. Un vrai soulagement pour Marius, militant au mouvement des jeunes socialistes.
Il y avait quand même une peur que les choses se passent moins bien. Et là, on est quand même plutôt dans une dynamique intéressante parce que c'est ce qu'a apporté Raphaël Glucksmann aussi. Même si ça n'a pas été un fond succès au début, on est en train de se sentir dans cette dynamique et je pense que c'est un premier pas vers autre chose plus tard.
Pourtant, l'ambiance n'est pas à la danse aux célébrations dans la salle. Pas question de faire la fête ce soir, répète à la tribune la tête de liste Raphaël Glucksmann. Pas le moment avec une extrême droite en tête, pas le moment lorsque la gauche est plus divisée que jamais.
Il y a en France un peuple de gauche. Il mérite simplement d'avoir les appareils politiques qui soient à son niveau. Il mérite simplement d'avoir les forces politiques qui sortent de l'adolescence et qui acceptent de travailler ensemble pour lui donner ce qu'il demande, une alternative sociale et écologique. C'est ça le message de ce soir.
Une ligne suivie par le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui a annoncé qu'il contacterait dès aujourd'hui les autres forces de gauche en vue des futures échéances électorales.
Reportage de Steven Gouaillet. La France insoumise à 6,31% est tout juste devant le Parti Socialiste et n'a donc pas réussi à prendre les commandes de la gauche. Ce sera 6 sièges pour chacun dans le prochain Parlement de Strasbourg. Une gauche qui reste éparpillée et dont la composante écologiste semble aujourd'hui la plus crédible. Stéphane Robert, le clivage droite-gauche est mal en point.
Oui, la stratégie mise en place par Laurent Wauquiez, tout comme la tentative du PS de se reconstruire avec Place Publique, partent du principe que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 était un accident, que le clivage droite-gauche, qui structurait depuis des décennies la vie politique française, va immanquablement ressurgir, et partant de là que la droite et la gauche vont pouvoir se reconstruire, même si ça doit prendre un petit peu de temps. Seulement, ce qui apparaît à l'occasion de ce scrutin, c'est précisément l'inverse. Le clivage droite-gauche, à l'occasion de ces élections européennes, semble s'être estompé un peu plus encore. Les deux grands partis de gouvernement, Les Républicains et le Parti Socialiste, se retrouvent nettement en dessous des 10%, c'est historique. Il n'y a plus de leader à gauche, vous le disiez, la France Insoumise est en dessous des 7%. En fait, c'est comme si ce scrutin européen était une validation de ce que nous raconte le politologue Jérôme Fourquet dans son livre L'Archipel français, sorti il y a quelques semaines, et de ce que raconte le philosophe Marcel Gauchet depuis déjà quelques années, à savoir que le clivage droite-gauche avait deux matrices. D'un côté, la religion conservatrice, et de l'autre, la République, dont les valeurs sont fortement ancrées à gauche et inspirées par le communisme. Or, on assiste à une disparition de ces deux matrices. Le communisme a vécu, et en France comme ailleurs en Europe, il y a de moins en moins de croyants. Et donc, si c'est bien ce qui est en train de se passer, on est sur des changements structurants et de long terme qui condamnent définitivement la stratégie de Laurent Wauquiez et les espoirs du Parti Socialiste.
Merci Stéphane Robert. Et puisqu'on parle d'Europe, allons voir maintenant au niveau européen ce que ces élections vont modifier pour les 5 prochaines années. Pour ce qui est des équilibres au Parlement de Strasbourg, nous aurons dans un instant l'éclairage d'Annabelle Grelier, mais nous allons également étudier dans le détail les résultats ou estimations venues des différentes capitales, en commençant par Londres. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Londres, où l'élection européenne organisée à la hâte en raison du report du Brexit a donné l'occasion hier aux électeurs de se prononcer une nouvelle fois sur leur rapport à l'Union européenne. Et le grand vainqueur, c'est assez clair, c'est le Brexit Party de Nigel Farage.
Oui, on le voit ce matin dans tous les kiosques de journaux. Et maintenant, donnez-nous le Brexit. Voilà le slogan à la une du Daily Express. Le Daily Mail parle de séisme Farage et les deux tabloïds publient la photo du leader populiste tout sourire après son écrasement. Écrasante victoire. Le Brexit Party, lancé officiellement il y a moins de 2 mois, recueille un tiers des voix en Angleterre et au Pays de Galles.
Big win for the Brexit Party, that's very clear. But the real issue here is...
C'est une grande victoire pour le parti du Brexit. Mais ce qui est vraiment important, c'est que dans 5 mois, le 31 octobre, on est censé quitter l'Union européenne. Et maintenant que nous avons un mandat, nous demandons à faire partie de l'équipe de négociation pour préparer ce pays à partir, quelles que soient les circonstances. Nous irons à Bruxelles et nous avons avec nous des hommes et des femmes d'affaires de premier plan. On va se débrouiller.
Et pourtant, si on fait les comptes, Benoît, l'équation n'est pas si simple. On additionne les scores des partis pro-européens, les Verts, les indépendantistes gallois, Change UK, les libéraux-démocrates, on obtient un score historique, mais tout de même plus élevé que celui de Nigel Farage. En face, les libéraux-démocrates font un score particulièrement élevé. Ed Davy, ancien ministre des Lib Dem, explique même qu'il est encore possible d'arrêter la sortie de l'Union européenne. Et puis, en revanche, les grands partis qui ont jusqu'ici refusé de se positionner pour ou contre la sortie de l'Union européenne prennent aujourd'hui une claque historique. 3 sièges seulement pour le Parti conservateur, même pas 9% des voix. C'est le pire résultat qu'on ait vu en 185 ans, lance Daniel Annan, député de la majorité. 10 sièges pour les travaillistes, là aussi, c'est presque deux fois moins qu'en 2014.
Merci Antoine Gignon, on n'y voit donc pas plus clair ce matin. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour.
En charge des questions européennes à la rédaction de France Culture. On a assisté hier à la poussée qui était attendue des eurosceptiques, et pas uniquement au Royaume-Uni. Les formations d'extrême droite vont totaliser plus d'une centaine d'eurodéputés, mais le camp pro-européen résiste tout de même plutôt bien.
Oui, la droite européenne, le Parti populaire européen, reste avec 179 sièges contre 216 actuellement, la première force de l'hémicycle. La gauche, des sociaux-démocrates, le groupe SD, reste également le deuxième parti avec 150 sièges contre 185. Mais ces deux groupes, vous voyez, sortent affaiblis. Ils devront désormais composer avec les libéraux du groupe ALDE, où siégera La République en marche d'Emmanuel Macron, et le groupe des Verts qui obtient 70 sièges. Alors que va-t-il se passer du côté des nationalistes? Si l'on additionne les bons résultats de l'extrême droite, des eurosceptiques, des europhobes, on atteint les 172 sièges, ce qui ne fait pas une majorité au Parlement européen. Mais trop disparate, il ne devrait toutefois pas parvenir à constituer un seul groupe, d'autant que le parti nationaliste de Viktor Orban, largement vainqueur hier soir en Hongrie, est toujours pour le moment dans le groupe de droite PPE. Les tractations vont donc commencer. Les nouveaux équilibres seront déterminants dans la course au poste clé des institutions européennes, à commencer par celui du successeur de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, qui devra obtenir au moins 376 sièges sur 751. Ce n'est donc pas gagné pour l'Allemand de la CDU, Manfred Weber.
Merci Annabelle. Également avec nous ce matin, Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Analysons maintenant avec vous, pays par pays, les conséquences intérieures qu'auront ces élections. Elles seront lourdes, par exemple, en Grèce, qui annonce des élections anticipées.
Voilà, c'est effectivement là que les répercussions seront les plus vives. Ces législatives anticipées annoncées dès hier soir par le Premier ministre Alexis Tsipras. Son parti Syriza, il faut le dire, a été sanctionné. Sans doute paie-t-il les effets de la crise, toujours très vif. Il n'arrive qu'en deuxième position, 9 points derrière la nouvelle démocratie conservatrice. Alexis Tsipras avait fait de ses européennes un vote de confiance sur sa politique. Eh bien, il souhaite donc retourner au plus vite devant les électeurs en avançant un scrutin qui était prévu à l'automne. La gauche du gouvernement grec qui fait grise mine, la gauche espagnole qui sourit largement. Le Premier ministre Sanchez a lui réussi son pari. Il offre aux sociaux-démocrates du continent leur plus éclatante victoire avec 20 sièges et devrait tenter de retrouver du poids en Europe, notamment à l'heure du partage des postes à responsabilité. Bien sûr, c'est aussi une victoire sur la scène espagnole, un mois après les législatives qu'il a remportées et alors qu'il réfléchit encore aux équilibres pour former un exécutif. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt du désaveu enregistré par les sociaux-démocrates dans plusieurs grands pays du continent. La France, l'Allemagne notamment, où il s'effondre, ce qui fragilise outre-Rhin encore la coalition de gouvernement. Un mot de la Grande-Bretagne, on l'entendait, très divisée alors qu'elle doit encore négocier le Brexit, avec à la fois cette forte poussée du parti pro-Brexit de Farage, mais aussi celle des Lib Dem anti-Brexit. Et puis en Italie, la Ligue de Salvini rafle la mise, mais exclut pour l'instant un remaniement.
Merci Marie-Pierre Véraud. On revient évidemment sur ces résultats tout au long de la journée, dans la revue de presse internationale de Camille Manière tout à l'heure, et puis évidemment sur notre site internet franceculture.fr. Un mot du temps, Guillaume, aujourd'hui c'est Mossad.
Eh oui, et il va y avoir de la pluie par le sud-ouest, c'est en tout cas ce que l'on annonce, ainsi qu'au nord-est d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Bouscarel. 7h14 sur France Culture. Dans quelques instants, on va parler des élections européennes en Europe, et oui, et notamment en Autriche.